Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette dernière rencontre sur la démocratie participative. Merci d'être présents ce soir puisque cette séance était initialement programmée le 16 décembre, mais comme vous le savez, en raison de la fermeture anticipée du centre, en raison des grèves, un certain nombre de rencontres ont été annulées en décembre et même en janvier. Donc nous avons pu heureusement la reprogrammer ce soir, donc je suis tout à fait ravi qu'elle puisse avoir lieu. Donc, aux séances précédentes, nous avions évoqué la question de savoir comment et à quelle échelle on faisait la démocratie participative, puis si les conditions étaient réunies pour que cette démocratie participative existe à l'ère numérique. Et ce soir, nous allons évoquer l'articulation entre participation citoyenne, débat et décision politique. Et pour cette séance, je suis absolument ravi d'accueillir Hilaria Casilo et Laurence Monnoyer-Smith, et je laisserai bien sûr le soin à Loïc Blondiot de les présenter plus amplement que je ne peux le faire maintenant. En revanche, bien sûr, je vais présenter Loïc Blondiot qui va animer cette soirée. Donc Loïc Blondiot, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes en ce moment, et vous allez heureusement nous en parler ce soir, ce sera un cas tout à fait intéressant à étudier, vous participez au comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, donc qui est très active pour encore un certain nombre de semaines, voire de mois. Et bien sûr, vous avez fait paraître un certain nombre d'ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns. Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative au seuil en 2008. Inventer la démocratie au XXIe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur en 2017 et le dernier en date, en tout cas à ma connaissance, la démocratie des émotions en 2018 aux presses de Sciences Po. Et alors vous pouvez bien sûr, comme nous sommes dans une dynamique de participation, vous pouvez d'ores et déjà préparer vos questions que vous pourrez poser d'ici une heure à l'ensemble de nos participants. Très bonne soirée.
Voilà, merci Sébastien. Je suis vraiment ravi que vous soyez aussi nombreux pour une séance reportée. Je suis aussi ravi d'accueillir deux personnes que j'estime et que je connais maintenant depuis assez longtemps. Hilaria Casilo, qui est vice-présidente de la Commission nationale du débat public, mais qui est à l'origine chercheuse et maître de conférences en géographie et en urbanisme et spécialiste vraiment de cette question de la participation. Et puis Laurence Monnoyer-Smith qui est maintenant conseillère environnement et climat au Centre national d'études spatiales, après avoir été commissaire général du développement durable, vice-présidente elle aussi de la Commission nationale du débat public et professeure d'université. Et elle a été l'une des premières à travailler sur la participation sur les plateformes numériques lorsqu'elle enseignait à l'université de Compiègne. Donc l'une et l'autre ont ce double regard de chercheuse, d'actrice, de la participation. Elles ont fréquenté finalement ces lieux qui sont à l'interface entre le pouvoir et la société, où il s'agit soit d'animer des débats, comme à la Commission nationale du débat public, soit d'organiser ou de penser des politiques, comme au commissariat général au développement durable. Alors, pour ma part, moi, je suis essentiellement un chercheur, mais qui, depuis très récemment, me suis laissé embarquer dans l'organisation d'un dispositif participatif dont il me semble qu'il pourrait être intéressant de parler en troisième partie de cette conférence. Donc, je crois qu'il y a des gens qui se sont trompés de conférence, j'espère. Oui, c'est ça. Rassurez-nous. Bon, voilà. Bon, très bien. Donc, 20 minutes... 15 à 20 minutes d'intervention de nos deux invités. Et puis, j'interviendrai aussi pour réagir, compléter ou discuter éventuellement ce qu'elles auront dit. Et nous aurons une vingtaine de minutes de discussion. Je m'engage à ce qu'à 20h30, ce débat soit terminé, puisque la soirée commencera pour un certain nombre d'entre nous. Donc, voilà, je vais on a tiré au sort et c'est Laurence Monnoyer-Smith qui va prendre la parole pour. Alors la grande question, c'est simplement à titre d'introduction, on sait très bien que le lien entre participation et décision est le maillon faible de ce mouvement auquel on assiste aujourd'hui de mise en place de dispositifs, de démarches, d'instances visant à associer les citoyens au processus de décision. Le sentiment le plus répandu est que leur influence sur la décision reste marginale, au mieux absente, au pire. Nous avons l'exemple du grand débat, qui est un exemple assez paradigmatique de dispositif d'assez grande ampleur qui a sollicité les citoyens, dans lequel un certain nombre de citoyens se sont investis pour s'exprimer, pour prendre la parole, et dont on s'aperçoit aujourd'hui que ce dispositif n'a rien produit en ce qui concerne la décision politique, au point même, hein, et vous l'avez vu ces derniers jours, que les cahiers de doléances qui devaient être mis en ligne et à la disposition de chacun commencent d'ores et déjà à moisir dans les archives départementales. Et c'est vraiment la preuve, finalement, qu'il n'est pas tenu compte suffisamment, ou voire même pas du tout, de ce que disent les citoyens dans un certain nombre de circonstances et de démarches qui prétendent finalement donner la parole aux citoyens. Et on pourrait multiplier les exemples à l'échelle locale qui laissent à penser que la démocratie représentative est imperméable aux résultats qui émanent de la démocratie participative. Alors il y a des contre-exemples, il y a des conditions pour que ces dispositifs exercent une influence. Il sera nécessaire d'en parler, je crois, mais il devient indispensable aujourd'hui non seulement de conceptualiser, mais aussi de réfléchir aux modalités au travers desquelles la participation citoyenne peut avoir une influence politique, peut être prise en compte par les autorités politiques qui la mettent en place. Donc voilà, Laurence, avec cette grande question sur laquelle on bute en tant que chercheur ou acteur depuis très longtemps, il y a deux grandes questions, la question des inégalités face à la participation et la question du lien avec la décision. Aujourd'hui, je pense qu'il peut être intéressant de traiter cette question. Je te donne la parole.
Merci beaucoup, Loïc. Merci pour cette invitation. Je suis toujours contente de revenir sur des moments très forts qui ont marqué mon engagement sur ces sujets de participation en tant que chercheuse et puis ensuite au commissariat général, puisqu'effectivement un des grands moments pour moi en termes de démocratie participative a été cette période où, pendant 4 ans, au commissariat général, je me suis occupée en particulier, suite au drame de Sivens, de la mise en place des ordonnances, enfin de l'écriture, hein, très concrètement, de l'écriture des ordonnances sur la participation du public qui ont été publiées à l'été 2016, après un travail très douloureux. Je voudrais sans doute dire 2 choses. Premièrement, pourquoi c'est problématique ce passage à la décision ? Fondamentalement, quand on regarde comment ça fonctionne de l'intérieur, pourquoi on a des difficultés de passage d'un dispositif à un autre. Et la deuxième chose, la deuxième partie de mon propos, je voudrais essayer de dire comment, en tout cas ce qu'on a essayé de faire, avec un certain nombre de limites, et comment on peut essayer de remédier à ça. Alors, pour démarrer, je peux dire pourquoi c'est difficile. Parce qu'en fait, Loïc l'explique bien, le principe de la démocratie participative et le principe de la démocratie représentative reposent sur deux grands paradigmes, pour aller vite, ou deux grandes conceptions de la démocratie. Il y a une conception qui est véritablement basée sur la puissance de la parole des citoyens, de la valeur des représentations qu'ils peuvent véhiculer, et qu'ils peuvent, la qualité des échanges et des arguments, de leurs échanges et de leurs arguments, et de la puissance politique que cela peut recouvrir pour toute une série de décisions. Ça a été très très bien théorisé par la recherche. cette capacité argumentative des citoyens, elle a été mise en évidence à travers de très très nombreux dispositifs participatifs et qui montrent leur aptitude à échanger, à monter en généralité, à apprendre, à rentrer dans des sujets fondamentalement techniques, extrêmement complexes, même sur des sujets sur lesquels on ne les attendait pas. Et ça, on peut en citer 150, ça va des déchets radioactifs au gaz de houille, enfin voilà, sur toute une série de sujets où on voit la capacité et l'aptitude des citoyens de se saisir et de problématiques complexes. Et à titre d'exemple, Loïc pourra en parler sur la transition écologique, où là on est sur des sujets très techniques. Donc on a cette logique-là, cette capacité citoyenne à s'emparer des sujets et à formuler un certain nombre de, on va dire, d'attentes, mais aussi de valeurs, de hiérarchisation des valeurs sur lesquelles ils attendent à ce que les décisions politiques soient prises derrière. L'autre logique, qui est celle de la logique de la représentation, que nous héritons à travers une évolution assez lente sur deux siècles, mais que nous héritons évidemment de la Révolution française, nous a progressivement mis en place par une conceptualisation de la représentation comme étant la capacité d'un certain nombre d'élus à représenter les intérêts de la nation, mais qui fondamentalement comporte un vice fondateur qui a été très bien raconté par Pierre Rosanvallon, qui est un décalage toujours existant, on va dire consubstantiel à la démocratie, entre les représentants et le peuple. C'est deux approches très très différentes sont à la base de la difficulté que l'on peut avoir à articuler la parole citoyenne avec un processus législatif et décisionnaire. Alors la loi est une des formes du processus décisionnaire, il y en a d'autres, mais l'ensemble du processus décisionnaire en France et législatif en France repose sur une organisation juridique qui est à la main des représentants, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Donc passer d'une parole citoyenne, quel que soit le dispositif organisé, quel qu'il soit, un jury citoyen, une assemblée participative, quel qu'il soit, un dispositif procédural qui est entre les mains des représentants, vous voyez que là, à la base, vous avez un hiatus procédural qui explique qu'on a beaucoup de mal à articuler l'un avec l'autre. Lorsque les progressivement, à partir des années 70, très lentement, commencent à se mettre en place et à s'organiser dans la loi des dispositifs participatifs, ça commence autour des installations à risque, des comités locaux d'information autour des grandes infrastructures, en particulier d'assainissement. C'est dans ce cadre-là que ça se met en place. La loi et la réglementation qui a organisé ces processus participatifs, c'est bien gardé de penser une articulation précise entre la participation et la représentation. Pourquoi ? Parce que la participation citoyenne at large, dans des dispositifs qui soient participatifs ou délibératifs, il y a une petite différence entre les deux, mais en tout cas, pourquoi ? Parce que les élus ont toujours voulu garder la main sur ce processus en disant on tiendra compte de ce qui est dit, mais on n'organise pas la forme de reddition des comptes, d'évaluation. On ne la formalise pas, on ne la procéduralise pas, ou en tout cas très peu, de manière à ce que systématiquement le décideur puisse garder la main. Alors, la question peut se poser de savoir est-ce que c'est légitime finalement. Finalement, il faut bien qu'il y ait un décideur qui décide. Il faut bien que qu'il y ait à la fin quelqu'un qui soit responsable de la décision qui est prise. Quelque part, un petit peu, on sait aussi que ça oblige, on va dire, le représentant ou l'élu à prendre toute sa responsabilité, c'est aussi la noblesse du métier d'élu, toute sa responsabilité dans la décision qui est prise sans pouvoir complètement se défausser sur le dispositif participatif en disant « c'est pas moi, c'est eux ». Donc il y a un aspect très positif, l'élu en charge, prend toute sa responsabilité et prend ses décisions. Il y a un aspect négatif, il fait quand même ce qu'il veut. Il peut toujours dire qu'il a entendu ou un petit peu, mais voilà, il n'est pas obligé d'en tenir compte. Donc ce vice de base a été très compliqué à travailler et il a été souligné par la recherche assez rapidement d'ailleurs, hein, dès qu'on a commencé à travailler sur, dès que la première commission nationale du débat public a été mise en place dans les années 90, donc 95, installée 97. Dès que ça s'est mis en place, on a bien vu qu'on avait là quand même une problématique qui était fondamentale. Et donc, on a essayé de penser le passage de l'un à l'autre. Comment on a fait ? On a commencé par se dire, eh bien, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui de reddition des comptes. C'est-à-dire, il faut qu'on oblige finalement le décideur à expliquer ce qu'il a retenu ou ce qu'il a fait de ce qui a été dit. Et quelque part, on l'avait déjà un petit peu en germe dans le processus d'enquête publique. C'est-à-dire qu'on faisait l'enquête publique, qui était le premier grand dispositif participatif. Bon, on pourra gloser dessus beaucoup, mais évidemment. Mais en tout cas, le processus d'enquête publique, c'était ça. Au départ, les citoyens viennent écrire dans les cahiers, dans les mairies ou dans les préfectures. Et puis, le commissaire enquêteur, quand il fait la synthèse, il explicite ce qu'a voulu dire le citoyen et il transmet ce dossier-là à l'administration qui explicite la décision qu'elle prend. Donc, c'est ce premier germe qu'on a, c'était tout à fait insatisfaisant hein, dans sa première formulation. Mais en tout cas, c'était là. C'est ce qu'on a fait à la Commission nationale du débat public et d'ailleurs qu'on a renforcé au fur et à mesure. En obligeant, c'était pas dans les textes de 97, mais c'était dans ceux de 2002, les nouveaux textes des nouvelles missions de la Commission nationale du débat public, en disant, bon ben, il y a un débat, on fait Hilary en parlera très bien, il y a un rapport qui est fait par le président de la Commission nationale, et puis il y a, de la part des maîtres d'ouvrage qui sont responsables des grands débats publics, il y a une obligation d'expliciter la manière dont ils prennent en considération ce qui a été dit. Bon, sauf qu'on n'a pas expliqué dans le texte que ce qui se passerait s'ils ne le faisaient pas. C'est d'ailleurs toujours le cas. On a renforcé ça, mais enfin, on l'a rendu complètement obligatoire. Maintenant, ils sont obligés, mais ils ne vont pas se prendre une amende s'ils ne le font pas. Donc on a continué à tirer cette ficelle-là, cette ficelle de la redevabilité ou de la reddition des comptes. Elle est toujours difficile, elle repose sur une espèce de magistrature d'influence. Il n'y a rien pour en parler. Comment ça se passe ? Je peux témoigner qu'on a essayé plusieurs fois d'aller voir la maîtrise d'ouvrage pour lui dire il faut absolument que vous explicitiez pourquoi vous prenez ce que vous prenez en compte ou ce que vous ne prenez pas en compte. Donc ça reste en fait quelque part à la main et à la bonne volonté du maître d'ouvrage quand on est dans le cas d'une infrastructure quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'un TGV ou qu'il s'agisse d'éoliennes offshore ou peu importe, quelque nature que soit le débat, ça reste quand même à la main de la maîtrise d'ouvrage. Si on en vient maintenant au niveau national, là je parle des débats publics de plus grande ampleur, au niveau national, les dispositifs de concertation ont été renforcés. On les trouve maintenant en particulier dans le domaine environnemental, c'est vrai. Il y a une grande plateforme de participation. Tous les décrets qui sont sortis, avant que les décrets sortent, la réglementation fait l'objet d'une consultation. Il y en a beaucoup. Et cette obligation de reddition des comptes, c'est-à-dire de la manière dont on va prendre en compte ce qui a été discuté, par exemple, sur les plateformes, on est sur du débat très light, là. C'est pas du débat excessivement structuré. Mais enfin, des échanges qui peuvent... Des fois, ça prend quand même. Hein. Quand il s'agit d'une réglementation sur la chasse ou sur le loup, vous avez des milliers de participants à la concertation. Et puis, il y a des concertations un peu plus organisées. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'obligation légale non plus... de prendre en considération, d'expliciter comment on prend en considération. Vous allez me dire, il y a une obligation politique. Fatalement, c'est très compliqué pour un pouvoir politique de ne pas expliquer comment il va prendre en considération ce qui a été dit dans le débat. Mais enfin, ça reste de l'ordre du bon vouloir. Et puis surtout, il y a une partie qui me paraît très importante, qui est, on explicitera d'autant mieux, ou le citoyen aura d'autant plus la main sur la manière dont on va lui rendre compte qu'il va y avoir une analyse et que cette analyse, elle est transparente. Comme c'est dans le cas à la Commission nationale du débat public. C'est-à-dire que s'il y a des milliers de postes, des milliers d'échanges ou des comptes rendus d'ateliers, parce que des fois on va au-delà d'une consultation numérique, on fait des ateliers, on fait des rencontres avec les parties prenantes, etc. On a d'autant plus la capacité de juger si le politique a pris en considération ce qu'on a dit, si il a à sa disposition la synthèse de l'ensemble des échanges qui se sont tenus. C'est plus ou moins le cas. Plus ou moins. Parfois, il y a un engagement très fort des politiques, donc ils le font. Parfois pas. En fait, rien ne les y oblige. Donc c'est un engagement de l'ordre politique. Voilà, c'est un engagement purement moral. Il est important, on ne va pas dire qu'il est négligeable, il est très important. Quand un ministre dit « je m'engage à vous faire une synthèse », il le fait. On l'a fait sur la loi sur l'économie circulaire. Avant ça, on l'avait fait sur la loi Le Maire. Il y avait des grandes discussions sur le numérique, par exemple. Plus récemment, sur le texte de loi sur économie circulaire, ça a été fait de façon très importante. De la même manière, sur la loi d'orientation sur les mobilités, qui était une grande loi transport, qui était portée par Elisabeth Borne à l'époque, ça a été fait également. Mais cette phase-là, c'était une espèce d'engagement démocratique, moral, sur lequel nous n'avons pas finalement d'autre prise que celle de s'insurger si ça n'est pas fait, de contester si c'est mal fait, mais il n'y a pas tellement de recours. Ce qui veut dire que sur cette question de l'articulation entre le dispositif participatif et la démocratie représentative et tout le processus parlementaire qui va se mettre en place derrière, s'il en est besoin, ou le processus réglementaire ou de décision locale, toute cette articulation-là, c'est une espèce d'accord démocratique qui repose sur notre conviction collective de l'importance de la prise en compte de la parole citoyenne. Ça n'est pas négligeable. Il y a des pays dans lesquels ça n'existe pas. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais enfin, ça reste quelque chose de relativement fragile. Aujourd'hui, l'accent qui est mis sur la qualité des processus décisionnels rend d'autant plus vulnérable cet accord, d'autant plus fragile, cet accord qui repose sur une parole politique qui reste quelque part aujourd'hui contestée, parfois dévalorisée. Et donc, c'est à la fois défavorable, à mon sens, aux citoyens, mais c'est aussi défavorable aux politiques. Parce que même quand il est de bonne volonté, le fait qu'il n'y ait très peu de processus organisés ou écrits pour soutenir ce passage d'une sphère à une autre, fait qu'il peut y avoir toujours des formes de contestation. Donc l'absence de procéduralisation de ce passage de l'un à l'autre renforce une capacité d'argumentation, voire de mauvaise foi, y compris la mauvaise foi, elle n'est pas que du côté des politiques, elle est aussi du côté, c'est plus complexe que ça, elle est aussi du côté parfois des ONG ou du côté de certains corps intermédiaires. Donc ça fragilise beaucoup le pouvoir et l'ensemble du processus. En même temps, je suis bien consciente que c'est très complexe de l'écrire, mais on le verra dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, que ça a été un point qui a été extrêmement important à mettre en place. Et à contrario, dans le grand débat suite aux Gilets jaunes de l'année dernière, ça a été une grande faiblesse et on le sait bien. Mais cette faiblesse-là, elle est aussi utilisée à la fois par le politique pour garder une forme de marge de manœuvre, et elle est aussi utilisée de l'autre côté par un certain nombre d'ONG pour pouvoir se donner la possibilité d'une intervention ex poste. C'est pour ça que je ne dis pas que les choses sont noires ou blanches, que les bons et les méchants sont chacun d'un côté, les méchants côté gouvernement et les bons côté des citoyens ou des corps intermédiaires. C'est un petit peu plus complexe que ça. Hein. Il faut quand même le dire. Il y a tout à fait une capacité d'instrumentalisation du débat public par les corps intermédiaires qui leur permet, parce que ce n'est pas complètement procéduralisé, de passer par derrière les formes de participation citoyenne en utilisant les entrées qu'ils ont dans les ministères. Alors là, moi, je l'ai vu sous toutes ses formes, ce genre de truc. Hein. On organise des dispositifs participatifs et puis derrière, on a des corps intermédiaires qui vont directement dans les cabinets et qui font rectifier les textes de loi. Ça, alors là, ne nous l'aurons pas, c'est comme ça que ça marche. Donc l'absence de procéduralisation de ce lien d'une forme de légitimité à une autre forme de légitimité, les deux étant complémentaires et nécessaires, fragilise en fait très très fortement la démocratie.
Merci Laurence pour cette première intervention. Je vais donner la parole à Ilaria. Tu as un micro qui partage avec Laurence cette expérience. Alors, je pense que pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la Commission nationale du débat public, Ilaria va le préciser les contours de cette institution. Mais tu as très bien posé, Laurence, effectivement, la difficulté actuelle de ce passage entre participation et décision. Vas-y, Ilaria.
Merci Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, Laurence a déjà posé un peu le cadre de la mécanique de l'articulation entre la décision et les processus participatifs. Comme Loïc Blondiot vous l'a dit, je travaille à la Commission nationale de débat public. La Commission nationale de débat public est une autorité administrative indépendante qui est chargée par le Code de l'environnement de réaliser les concertations avec le grand public à chaque fois qu'il y a un projet ou une politique publique qui a un grand impact sur l'environnement, sur le cadre de vie. Eh bien, le législateur a dit qu'il faut que quand il y a ces projets-là, on garantisse deux choses. Le droit à l'information des citoyens et le droit à la participation effective sur la base de l'information pertinente. Donc la CNDP, l'institution en France qui depuis 1995 assure et garantit ces droits, le droit à l'information et le droit à la participation. 100 débats publics ont été faits par la CNDP. Le 100e, j'aurai l'honneur de le présider et concerne la politique agricole française. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous à y participer. Ça s'ouvre le 23 février. Mais à la CNDP, nous avons analysé nos débats pour dire mais est-ce que ça a de l'effet en fait ? Convoquer la parole citoyenne, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ? Sur 91 débats publics réalisés sur des projets, et j'insiste bien sur des projets, je reviendrai après sur la question des politiques publiques et sur les décisions de notre ampleur, 88 projets sont issus modifiés suite à une procédure de débat public. Ça nous dit des choses. Autre histoire est quand on fait une démarche participative, un débat public, une concertation sur une politique publique. C'est un peu différent. Mais mon expérience à la CNDP et les données que je viens de vous donner, je le fais pour une raison. Parce que je pense qu'il faudrait... cette expérience à la CNDP m'a amené à poser la question de l'articulation à la décision, c'est-à-dire comment le décideur prend en compte ce qui sort d'une démarche participative, en posant deux questions. Il s'agit d'écoute ou de partage ? Et lorsqu'il s'agit de partage, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on partage la décision ou on partage le pouvoir ? Parce que des fois, c'est là l'ambiguïté et c'est là la source de frustration. Lorsque un citoyen ou des collectifs s'engagent dans le débat dans toutes les sphères, un débat qui peut être conflictuel, tendu dans la sphère publique médiatique, mais aussi dans la sphère publique présentielle, quand on vient à une réunion publique. Ça aussi, hein, c'est le débat. Ce n'est pas que les réunions organisées par la CNDP. Donc, lorsqu'un citoyen s'engage, prend la parole dans la sphère publique, que ce soit dans un débat CNDP ou autre, est-ce que peut-être dans sa tête, il le fait parce qu'il a envie de partager le pouvoir ? Mais je viens revenir sur cette question. Alors, l'heure actuelle, on voit, de la conjoncture actuelle, elle est fortement marquée par une prolifération de démarches participatives. On a vraiment une profusion de budget participatif un peu partout, beaucoup de consultations faites par les métropoles, le grand débat national, la Convention citoyenne sur le climat. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces démarches de la relation entre les administrations et l'administré, les élus et les citoyens, l'aménageur et les habitants, le gouvernement et les autres citoyens? Elle nous raconte peut-être d'un tournant participatif majeur, ou est-ce qu'elle est la réponse à la crise de la médiation, qui a incarné la fameuse désintermédiation dont on parle? On pense au grand débat suite à la crise des Gilets jaunes. Se voulait la réponse à cette grande crise de la médiation ou de l'injustice sociale? Est-ce que c'est une réponse à la crise écologique? La Convention citoyenne sur le climat est un exemple parfait de comment une démarche participative peut être donnée en réponse là-dessus. Est-ce que c'est une réponse au configurations diverses et variées socio-économiques, je pense à tous les budgets participatifs. Est-ce que c'est vraiment un tournant, un changement de paradigme, ce qu'on est en train de vivre, et auquel cas s'interroge vraiment profondément l'articulation et la décision? Est-ce que c'est des démarches justes qui visent à répondre à quelque chose? Donc là, c'est plutôt de l'écoute que de partage, et en tant qu'écoute, c'est déjà pas mal, parce qu'un écoute doit toujours se conjuguer en reddition des comptes exemplaires qui dit à tous ceux qui ont participé: voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que je retiens, voilà pourquoi je fais, je prends ou je ne prends pas, et pour quelles raisons. Ça, c'est une reddition des comptes qui serait efficace. Rien que si on avait ça, on avait déjà pas mal. Mais en fait, la loi, à l'heure actuelle, comme Laurence l'a très bien souligné, là-dessus, elle est un peu, comment dire, pas encore complètement structurée, parce qu'elle prévoit que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne qui propose un projet ou une politique publique, suite à une démarche participative, dit les enseignements qu'il tire du débat. Et je cite la loi. Les enseignements, c'est-à-dire après, à lui de prendre ou de ne pas prendre. Mais la commission, par exemple, nationale du débat public, depuis quelques mois, a commencé à inaugurer une nouvelle pratique. Nous nous prononçons sur et prononçons, donc et produisons des délibérations sur la qualité de la réponse du maître d'ouvrage, pour dire elle est suffisante, elle est complète ou pas incomplète. Donc on essaie, nous, de forcer un peu la loi pour contrôler davantage cette reddition des comptes. Mais si on est dans une démarche de partage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on partage ? On partage le pouvoir ou on partage la décision ? Eh bien, si on est dans un partage de pouvoir, cela implique vraiment qu'on bascule vers une nouvelle approche, une approche qui soit, et je m'éloigne du paradigme de l'horizontalité, on faut vraiment passer d'une approche qui soit verticale, régulatrice, à une approche qui soit circulaire, et adaptative, donc qui dépasse hein, la fameuse image de l'horizontalité. Circulaire et adaptative signifie que je bascule vers un autre mode relationnel, une approche relationnelle renouvelée entre le citoyen et celui qui gouverne, c'est-à-dire une adaptation continue, que je le prends en compte et que je l'adapte, que je modifie, mais signifie aussi être à l'écoute des démarches spontanées de participation au sein de la société, une gestion partagée des biens communs que je vais outiller, signifie aussi reconnaître les pratiques informelles de participation et leur donner de l'outillage, outiller le pouvoir d'agir des citoyens. Donc si on se cantonne, et je vais peut-être m'arrêter si vous voulez là-dessus ou vous en parler davantage de la commission, mais ce qui me tenait à cœur aujourd'hui, c'est-à-dire si on se cantonne tout le temps à résoudre la question de l'articulation à la décision, comment un décideur a répondu à une démarche participative, on reste dans l'écoute et dans le partage d'une décision. Mais ça peut aussi, si je suis à l'écoute de la contemporanéité et donc de toute cette prolifération de ces démarches, c'est donc une gestion du pouvoir qu'on remet en cause, un partage du pouvoir. Eh bien, si c'est ça, il faut aller au-delà du principe de reddition des comptes tel qu'il a été théorisé par les chercheurs, tel qu'il, des fois, il est pratiqué. Et je voudrais vraiment aussi, c'est peut-être intéressant aussi d'entendre la salle là-dessus, parce que sur la reddition des comptes, il y a des choses qui existent. Nous, à la commission, on essaie d'avancer, justement de contraindre davantage les maîtres d'ouvrage à répondre, à prendre en compte, etc. Mais c'est autre chose, être un peu dans le partage de pouvoir largement apprendre et de produire des décisions plus partagées et donc, in fine, plus légitimes, il me semble.
Merci à toutes les deux. Moi, je vais effectivement, comme ça, on aura le temps pour la salle. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais de reprendre et éventuellement faire écho aux choses qui ont été dites là par chacune des deux premières intervenantes sur cette question qui n'est impossible qu'à condition, et Hilaria l'a dit, qui n'est impossible que si on reste dans un imaginaire, dans un paradigme, dans une vision de ce qu'est la représentation et de ce qu'est la décision. Et effectivement, si on change complètement d'approche, si on change complètement de paradigme, la question se pose de manière extrêmement différente. Alors, d'abord dire aujourd'hui, le lien entre la participation et la décision n'est pas codifié, ça a été dit par Laurence, et il est souvent relativement faible. Alors, l'arbre cache la forêt. La Commission nationale du débat public est une instance qui a démontré que la participation des citoyens, à condition qu'elle soit organisée, qu'elle se fasse de manière très professionnelle et avec des moyens, peut avoir une influence. Ta statistique est assez troublante, parce que si on regarde le reste du paysage, si on regarde toutes ces participations locales, toutes ces concertations à l'échelle municipale, tous ces conseils de quartier, etc., la participation, elle reste d'une influence quand même assez faible. Hein, et, mais je dirais, à quelles conditions elle peut être beaucoup plus forte. Pour l'instant, le bilan est très sombre et très problématique. Et on a une multitude d'explications pour rendre compte de ce constat de non-influence de la participation sur la décision. Alors, premier type d'explication qui vient, c'est celui que c'est celle que donnent ceux qui n'aiment pas la participation, ceux qui ne croient pas en la participation, et ceux qui pensent que les citoyens ne sont pas assez compétents pour que leur participation puisse avoir le moindre intérêt. Cette vision élitiste de la démocratie participative, elle est quand même largement partagée. Et effectivement, il y a tout un ensemble de personnes qui disent qu'il ne faut surtout pas que la participation ait d'influence sur la décision, parce que depuis que le monde est monde, il y a des gens qui ont la compétence nécessaire pour décider et d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, cette question, elle n'a même pas besoin d'être posée. Puisque ce serait quelque chose de tout à fait peu désirable. Et puis il y a ceux qui disent, finalement, nous avons réglé une fois pour toutes dans nos démocraties la question de la décision. La décision collective, elle doit être prise par des autorités qui auront été désignées par une majorité d'entre nous et en fait font reposer sur l'élection la condition d'accès à la décision. Et en fait, seules des autorités élues peuvent décider. Et en fait, cette procédure tout à fait extraordinaire qu'est l'élection, hein, qui permet à des gens de dire, voilà, moi, je prends la place de ceux qui m'ont élu, je parle en leur nom, et en fait, ce que je vais décider, c'est comme si c'était eux qui l'avaient décidé. Hein. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. C'est une fiction. Cette fiction de la représentation au travers de l'élection, elle permet à des acteurs de se substituer à un souverain qui, en principe, reste souverain, mais qui ne décide jamais lui-même. Hein, il décide toujours par procuration à travers ses autorités élues. Alors cette représentation de la décision, elle est très fortement ancrée dans notre imaginaire et effectivement nous ne serions pas tout à fait d'accord pour confier le pouvoir à des autorités non élues. Le cas par exemple, se pose avec la Convention citoyenne pour le climat, dont je vais vous parler dans un deuxième temps. 150 citoyens tirés au sort, même s'ils sont représentatifs statistiquement de la population, même si ils ont eu le temps de discuter et s'ils l'ont fait de manière transparente, sont-ils suffisamment légitimes pour prendre la décision au nom des 60 millions ou 66 millions de Français qui composent notre société? La question se pose légitimement. Peut-on finalement considérer que nous sommes liés par une décision qui aurait été prise par des gens que nous n'avons pas élus? Il y avait, en fait, la force de l'élection, elle repose sur une maxime médiévale hein, que l'on retrouve dans l'histoire des procédures électorales. Cette maxime du Moyen-Âge, elle dit « tout ce qui concerne chacun doit pouvoir avoir été consenti par chacun. L'élection, c'est ce qui permet d'attester alors ce consentement. Hein, c'est ce qui permet de lier tous ceux qui sont concernés par la décision, ne la prennent pas, mais ont élu les gens la prendront. Alors, le problème de cette fiction, c'est qu'elle fonctionne de moins en moins. C'est-à-dire, une fiction, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on y croit. Cette fiction de la représentation et cette magie de l'élection, finalement, elles opèrent de moins en moins dans notre société. On voit de très nombreux mouvements sociaux actuellement qui critiquent de manière radicale le principe même de la représentation. L'idée selon laquelle des gens pourraient parler, décider, agir en mon nom est une idée qui aujourd'hui est de plus en plus souvent contestée par les acteurs. Contestée en général et contestée localement. Hein, vous avez pris cette décision sans moi, vous n'aviez pas le droit de le faire sans m'y associer sans me consulter. Et c'est ce réflexe, cette résistance, ce réflexe de résistance que l'on retrouve dans de multiples circonstances où des citoyens se mobilisent pour contester des décisions qui les concernent, mais auxquelles ils n'ont pas été associés. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Et donc, cette érosion de la base de légitimité sur laquelle repose l'autorité politique, elle compte beaucoup dans ce désenchantement à l'égard de la représentation. Ça enlève effectivement à cette fiction une grande part de son efficacité. Et puis nous avons en France de surcroît un mode de scrutin qui finalement produit des représentants qui ne sont pas représentatifs politiquement, au sens fort du terme, dès lors que, comme le président de la République actuel, ils ont été élus par défaut au second tour, et que, en fait, ceux qui soutiennent, qui ont soutenu ce candidat au premier tour de l'élection, constituent une minorité, en l'occurrence 18% du corps électoral. Ça ne fait pas une base de représentativité qui vous permet de dire, comme Louis XIV, le peuple c'est moi, hein, et qui vous permet d'agir en son nom. Or, ils le font, parce que finalement, toutes nos institutions sont liés à cette fiction, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser un vocabulaire et à produire à avoir des réflexes finalement qui n'ont plus d'effectivité. Ou en tout cas, voilà, sont devenus largement contestés et problématiques. Et puis, il y a un dernier point qui effectivement gêne la participation effective des citoyens à la décision, c'est notre conception même de la représentation. Nous avons ce que j'appelle une conception héroïque de la décision, Nous avons une conception héroïque de la décision. La décision, ça devrait être un geste, un moment, un acte fort dont on pourrait identifier d'un certain point de vue le lieu, l'auteur, le moment de manière très très précise. Or, ça aussi, cette fiction de la décision, ça a été bien travaillé par des spécialistes des organisations ou des spécialistes de l'action publique. En fait, là aussi, c'est une illusion. Une décision, ça se construit. Ça a une multiplicité d'auteurs. On ne sait pas véritablement qui en est véritablement à l'origine. Donc, cette vision héroïque de la décision, elle interdit qu'on puisse en avoir une conception beaucoup plus pluriel, constructiviste. Une décision, ça devrait être un processus beaucoup plus qu'un acte. Et si on adopte cette vision de la décision, il devient beaucoup plus simple de considérer qu'en fait, nous sommes plusieurs à en être les auteurs. Alors évidemment, il ne faut pas non plus pousser la logique jusqu'au bout. Il y a bien un moment où la discussion, la délibération, la participation doit s'arrêter. Et effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir le dernier mot. Mais je crois qu'on aurait tout intérêt à reconsidérer notre perception de la décision. C'est un peu ce qu'a dit Ilaria et je le partage tout à fait. Alors, en quelques mots, je vais essayer de prendre la Convention citoyenne pour le climat, qui est l'affaire qui m'occupe beaucoup en ce moment, comme un exemple. Alors, pour l'instant inachevé, deux cas dans lesquels se pose vraiment de manière aiguë cette question de l'articulation entre la participation et la décision. Alors, d'abord dire, et ça je pense que ça vaut pour la participation en général, que cette convention citoyenne n'aurait pas existé sans une mobilisation citoyenne. Et ce qui fait la force des dispositifs participatifs, c'est précisément la mobilisation citoyenne. Ilaria et Laurence nous ont dit il n'y a pas de garantie juridique d'influence de la participation sur la décision. Mais il y a des circonstances politiques des rapports de force politiques dans lesquels la participation a plus de chances d'avoir une influence sur la décision. Or, là, en l'occurrence, le niveau d'ambition de cette convention citoyenne est intimement lié au niveau de mobilisation des Gilets jaunes qui, par leurs revendications de démocratie directe à travers le référendum d'initiative citoyenne, ont forcé le pouvoir à s'engager sur une modalité de participation qui devait présenter un certain nombre de garanties ou d'ambitions. Et donc, la démocratie participative seule ne suffit pas à produire de l'influence. La démocratie participative, dans un contexte de mobilisation, lorsque nombreux sont ceux qui regardent, attendent les résultats de cette démocratie participative, a une chance. Alors, ça n'est pas une garantie, mais d'avoir de l'influence. Donc, pas de participation réelle sans mobilisation réelle. Ça, c'est le premier élément. Cette Convention citoyenne pour le climat, donc, elle est née d'une déclaration d'Emmanuel Macron en avril 2019 dans laquelle il envisageait cette Convention citoyenne comme une voie de sortie de la crise du mouvement. Et ce dispositif, il avait été suggéré par des acteurs de la société civile. Il y a eu une coalition d'acteurs qui se sont appelés les Gilets citoyens. Il y avait des Gilets jaunes, il y avait des spécialistes de la participation comme moi, il y avait des activistes comme Cyril Dion qui finalement ont proposé cette assemblée citoyenne comme moyen finalement de mettre en place une forme de démocratie participative qui répondait à la demande de démocratie et qui, en l'occurrence, pouvait ouvrir des perspectives quant à la question environnementale. Qu'est-ce qui fait la force politique et pas juridique? Parce qu'il y a tout un débat en ce moment sur la base juridique de la Convention citoyenne. Aucune base juridique. Une déclaration du président de la République qui s'engage à transmettre sans filtre les propositions que feront les 150 citoyens tirés au sort visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En fait, cette assemblée, elle a un mandat. Ce mandat se résume à une lettre du Premier ministre qui indique cela, qui dit « Vous devrez faire des propositions visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et le gouvernement s'engage à les transmettre sans filtre, a dit le président de la République, soit au référendum, soit aux deux assemblées sous forme de loi, soit sous forme réglementaire. » C'est donc la parole du pouvoir politique, ça n'est absolument pas le droit, qui fait tenir et qui garantit la crédibilité pour certains, qui pour d'autres ne suffit pas à garantir la crédibilité de cette convention. Et s'il n'y avait pas eu cet engagement préalable, il est clair que des gens comme moi ne se seraient jamais embarqués dans cette aventure. La grande différence avec le grand débat, c'est que le grand débat, il n'y avait aucune promesse. La promesse était très vague. Elle n'était pas aussi précise que cette expression de sans filtre qui est sujette à toutes les interprétations, à toutes les exégèses, mais qui constitue le socle politique. Donc pas de droit. C'est peut-être une limite, mais il y a un moment politique, une fenêtre d'opportunité politique, disent les spécialistes de l'action publique, qui valait la peine d'abord que 150 citoyens tirés au sort s'engagent. Et ça, c'est finalement l'information première et déjà le résultat premier de cette convention. C'est en juillet et en août, lorsque nous avons généré des numéros de téléphone de manière aléatoire pour tirer au sort ces 150 citoyens. Lorsque nous avons commencé à appeler ces citoyens, je dis nous, c'est pas moi, c'est la société de sondage que nous avons mandatée pour le faire. Un tiers des citoyens contactés par téléphone ont accepté de travailler pendant 6 week-ends et donc pendant plusieurs mois de manière quasi bénévole. Ils sont rémunérés à la même hauteur que les jurés d'assises qui participent aux cours d'assises, c'est-à-dire 82 ou 92 euros par jour. Et ceux qui travaillent le dimanche sont indemnisés à hauteur finalement de leur salaire ou du résultat de leur activité habituelle lors des jours où ils ne travaillent pas, lorsqu'ils travaillent. Un tiers des citoyens ont répondu d'accord. Et depuis le mois d'octobre, depuis nous en sommes au cinquième week-end, et hier s'est achevé le cinquième des sept week-ends de la Convention, les citoyens travaillent avec un acharnement, une énergie et un niveau d'investissement tout à fait incroyable. Samedi soir, ils sont restés pour certains jusqu'à minuit pour finaliser les propositions seront votées, les propositions donc visant à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre, qui seront votées à partir du prochain week-end. Il y a un engagement citoyen. Et il y a une prise de responsabilité citoyenne. Des citoyens qui, je le rappelle, ne prendront pas la décision, mais vont proposer à la décision du peuple souverain en cas de référendum ou des représentants en cas de procédure législative, vont proposer des solutions qui s'apparentent. Alors 45 propositions sont sur la table qui sont encore destinées à ne pas être rendues publiques parce qu'elles sont trop fragiles et puis elles n'ont pas été votées par les citoyens. Mais si on adoptait ces 45 propositions, la France se donnerait les moyens de quelque chose qui ressemblerait à une vraie transition environnementale et à un vrai changement, me semble-t-il, de politique prenant en compte l'impératif climatique. Dernier élément, parce que je suis vraiment beaucoup trop long, et ça vaut le coup parce que les deux premières intervenantes, et je les en remercie, ont été très économes de leur temps. Donc ça va permettre d'avoir une discussion entre nous. Qu'est-ce qui fait la force et qu'est-ce qui fait la faiblesse de ce dispositif? Qu'est-ce qui est susceptible de faire la force et la faiblesse puisque tout n'est question que de rapport de force politique? Ce qui fait la force, et ce qui, à mes yeux, peut faire la force du dispositif, c'est sa qualité procédurale. Il ne faut absolument pas négliger la qualité procédurale des démarches de démocratie participative qu'on met en place. Si les citoyens qui la composent sont réellement représentatifs, ce qu'ils sont sur différents critères. Nous avons vraiment des citoyens qui ne sont pas les suspects usuels ou des citoyens qui s'engagent habituellement dans les démarches démocratie participative. Ce sont des gens qui viennent de toutes les catégories professionnelles, de tous les âges, de toutes les régions. Nous avons des moins de 18 ans. Il y a 4 ou 5 citoyens qui ont entre 16 et 18 ans qui participent. Nous avons des citoyens, s'agit-il énormément, qui ont tout niveau d'éducation et un quart de ceux qui participent sont sans diplôme. Et cet enseignement est absolument capital lorsque l'on sait que dans la démocratie représentative, mais aussi dans toutes les démarches démocratie participative, ceux qui prennent la parole, ceux qui prennent la place, sont ceux qui ont des diplômes. Pas forcément les plus riches, mais c'est ceux qui ont finalement l'assurance suffisante et une assurance que leur donne le diplôme dans un pays où effectivement le diplôme vaut certificat de légitimité dans les espaces publics, dans les processus politiques. On n'en a pas parlé du tout, mais ce rôle que joue aujourd'hui l'éducation dans la légitimation des élites et dans finalement la disqualification de ceux qui n'ont pas réussi scolairement est quelque chose d'absolument décisif, et la distance qui sépare ces deux groupes est largement construite par un système éducatif hyper sélectif, hyper concurrentiel et d'un certain point de vue extrêmement élitiste. Alors, ce qui fait la légitimité, c'est ça, c'est la représentativité. On appelle ça la légitimité par les inputs, la légitimité procédurale du dispositif. Et puis, ce qui va faire la force politique de ce dispositif ou pas, ce sont ce que vont produire les citoyens. Et là-dessus, j'ai peu de doutes, j'ai des doutes encore, Je ne sais pas si, à la fin, les citoyens aboutiront à des compromis parce qu'il y a des conflits de vision, des conflits d'intérêts chez les citoyens eux-mêmes. Ils sont placés en situation de rechercher l'intérêt général. Ils travaillent dans un esprit de recherche de l'accord. C'est une vraie délibération. Ça n'est pas du tout les parlements classiques dans lesquels les parlementaires mènent une forme de dialogue de sourds. Là, chacun essaye vraiment de persuader l'autre dans un climat de sérénité, de bienveillance tout à fait sidérant et incroyable. Ils se placent du côté de l'intérêt général, mais ils n'ont pas forcément la même vision de l'intérêt général. Et l'un des risques des dispositifs participatifs de ce type, c'est de produire de l'eau tiède. Pour l'instant, les propositions qui sont sur la table ne sont pas de l'eau tiède. Peut-être que la nécessité des accords et les votes vont finir par produire des décisions qui seront en quelque sorte relativement édulcorées. Mais j'ai bon espoir qu'il y ait des propositions ambitieuses, des propositions qui répondent finalement à la demande qui a été faite aux citoyens et qui soient à la hauteur de la confiance qui leur a été faite. Et puis, dernier point, il faut que les citoyens qui ne participent pas, qui ne vivent pas cette expérience aussi intensément que les autres, s'intéressent à cette question. Et en fait, l'un des vrais problèmes de la démocratie participative et des exercices, c'est leur confidentialité. La plupart des enquêtes, et notamment une thèse que j'ai eu la chance de diriger il y a deux ans, de Guillaume Petit, montre qu'en fait, il y a 1% des citoyens, par exemple, dans les collectivités locales, qui fréquentent les dispositifs participatifs. 1%, ça n'est absolument pas suffisant. Alors, évidemment, lorsqu'ils sont tirés au sort, forcément, ça ne concerne que des petits groupes, mais cette confidentialité des dispositifs participatifs, pour l'instant, ne leur donne pas le poids politique qui permettra d'exercer une influence. Et donc, il est impératif, on a des journalistes, mais tant que les grands médias, tant que les leaders d'opinion qui touchent l'ensemble des citoyens ne seront pas intéressés à cette expérience, il y a peu de chances qu'elle ait de l'influence. Bon, voilà, c'est vraiment tout ça dans un désordre absolument infernal. Je suis vraiment désolé, mais je compte beaucoup sur vos questions. On a presque une demi-heure de questions et ça peut vraiment être intéressant, j'espère.
Bonsoir, Lucas de Paris. J'ai entendu avec beaucoup de satisfaction parler de fiction à propos de la représentation, car il semble effectivement que c'est une fiction qui a été construite les deux derniers siècles pour l'assimiler à la démocratie, alors que c'était son contraire. Dans la Constitution, on a l'article 27 qui dit que le mandat impératif est nul. Donc les politiciens ont fait une Constitution qui font que c'est les élus qui ont le pouvoir, qui ont la décision. La démocratie, étymologiquement, c'est la population qui a ce pouvoir de décision. Donc j'ai pas bien compris la distinction entre pouvoir et décision. J'aimerais bien avoir des précisions là-dessus. Sur quoi je voudrais interroger, c'est sur les assemblées tirées au sort. Donc on est tellement dans cette fiction où on a assimilé la démocratie à l'élection, alors que c'est l'opposé chez Aristote, où l'élection est assimilée à l'aristocratie, et la démocratie au tirage au sort, qu'on se dit quelle est la légitimité de ce que peuvent discuter 150 citoyens tirés au sort. Et donc je voulais demander si une forme de résolution n'est pas de construire le fait qu'il y a une certaine similarité avec les exemples, par exemple, de l'Irlande, où avant 8 référendums, ils ont tiré au sort des assemblées. Et en gros, le référendum allait dans le sens de ce qui avait été dit par les tirs au sort. Et ce qui se passe aussi maintenant dans les référendums suisses, où dans un référendum, il y a le point de vue de ceux qui sont pour, le point de vue de ceux qui sont contre, mais aussi un troisième point de vue qui est celui de citoyens tirés au sort pour faire une sorte de synthèse. Voilà, je vous remercie.
Au fur et à mesure, peut-être sur pouvoir et décision, Hilaria.
Alors, quand on partage la décision, ça peut concerner une décision, prenons, on fait un débat public, une démarche de participation sur un projet, une ligne à grande vitesse, une centrale d'enfouissement des déchets radiatifs, un centre culturel, un équipement sportif, etc. On doit décider sur quelque chose de précis, on voit plus ou moins les étapes de la décision avec les difficultés procédurales qu'a pointé Laurence Monnet et Smith, etc. Autre chose, c'est infléchir la manière dont le pouvoir et les systèmes d'accord retour en décision, en différentes chaînes de décision, il change et il prend en compte les choses. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus large, en fait. Quand on fait une démarche participative, la démarche participative, elle peut avoir trois types d'effets. Sur le projet ou la politique publique, sur les acteurs concernés, ce qui nous sommes, ce qui participent, ce qui décident, mais aussi les citoyens qui participent parce qu'il y a de l'empowerment, de la capacitation, autre chose. Il peut avoir un troisième type d'effet qui est beaucoup plus difficile à mesurer sur le système largement appréhendé. Or, en général, nous, on mesure la première chose quand on parle d'articulation à décision. Voyons comment la décision petite, concrète, mesurable, procédurale, justement, et non pas processuelle, a été prise en compte. Et là, la différence est foncière parce que être associé à une décision, c'est très bien. Le principe de reddition des comptes, elle est un peu plus facilement mesurable. Mais qu'un décideur décide par tout un temps de chaînes participatives, de dispositifs d'ouverture, de partager la décision, le système de pouvoir, la manière dont il y a les systèmes d'inégalité au sein de nos sociétés, in fine, c'est quand même autre chose. Or, ma question était, tous ces dispositifs participatifs qui sont mis en place, est-ce qu'ils sont en train de réinventer les institutions démocratiques? In fine, pourquoi on fait aussi une convention citoyenne sur le climat? Parce que, pour la fameuse myopie de Rosanne Vallon, les décideurs n'arrivent pas à voir dans leur champ visuel les décisions future regarding qui concernent le futur, les générations futures, et des enjeux climatiques ou scientifiques forts. Et ils n'arrivent pas à le faire par des questions de cycles électoraux, parce que les élections sont courtes, il faut renouveler son mandat, et donc on pense à résoudre, entre guillemets, des petits problèmes. Parce que les lieux de l'expertise sont souvent en dehors et déplacés de lieu de la décision. Donc, on a peut-être besoin d'instances qui ne sont pas soumises au poids des lobbies, ne sont pas soumises à cette myopie, et donc la nécessité de réinventer les institutions démocratiques. Or, il est quand même frappant de voir que ce soit l'impératif écologique qui est en train de réinventer, ré-questionner quand même nos institutions démocratiques. Je m'arrêterai peut-être là, je pourrais continuer des heures. Mais juste pour vous dire quand même un truc, je profite. La Commission nationale de débat public a tiré au sort 400 citoyens sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et les a réunis à l'Assemblée nationale. Nous réunissons encore en fin mars 140 citoyens tirés au sort sur la politique agricole française. Quelle doit être la politique agricole de ces pays? Où on doit mettre l'argent qui vient de l'Union européenne? C'est des dispositifs qui sont utilisés. Celui-là, il est inédit par l'ampleur, la procédure, mais ce n'est pas la première fois quand même qu'en France, on utilise le tirage au sort, ce type de délibération, pour éclairer la décision. Mais avec toutes les différences, bien évidemment, que c'est quand même un exercice démocratique majeur qui reste à saluer.
Alors, ouais, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que, et c'est ce que dit par exemple une de mes collègues américaines qui s'appelle Claudia Lafont, il faut éviter les raccourcis. C'est-à-dire, oui, certes, ben, on ne peut pas faire en sorte que tous les citoyens, alors sauf hypothèse du référendum, mais que tous les citoyens délibèrent véritablement de manière exigeante et prennent la décision ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce que dit Claudia Lafont, on va faire un raccourci. On va en prendre 150 ou 300 et eux, on va les cultiver sous cloche et on va, pour paraphraser un de mes collègues américains aussi, on va supposer que ce qu'ils vont produire, ce qu'ils vont décider, ce qu'ils vont dire, c'est ce que le peuple, dans son ensemble, s'il avait eu la chance d'être soumis à ces mêmes conditions, ce qu'un peuple idéal, d'un certain point de vue, en démocratie, aurait pu produire. Et elle dit, si on fait ça, on abandonne l'objectif et l'utopie de permettre à l'ensemble des citoyens de participer le plus souvent possible, de s'éduquer, de s'engager dans la vie publique. C'est-à-dire, on crée finalement des isolats, des îlots. Et vous avez raison, il est hors de question de conférer à ces petites assemblées tirées au sort, nous on appelle ça des mini-publics, le pouvoir in fine de décider. Ce serait un transfert, me semble-t-il, abusif de légitimité. Ils peuvent soit éclairer le processus de décision des représentants, soit préparer le travail du peuple dans son entier et du référendum. Et l'exemple que vous donnez, il a été abouti dans un État américain qui est l'État de l'Oregon, où il y a une expérience tout à fait intéressante, c'est que dans l'Oregon, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, comme en Suisse. Les citoyens sont amenés à voter régulièrement, plusieurs fois par an, sur des sujets qui ont été proposés par pétition. Et il y a une petite assemblée citoyenne tirée au sort qui étudie une question qui est soumise au référendum, prépare un livret d'informations qui après est diffusé auprès de l'ensemble des autres citoyens. Et en fait, ils font ce travail préparatoire de mise en perspective des questions, des conséquences de chacune des options. Et ça, ça me semble être une forme d'articulation entre démocratie participative ou délibérative et démocratie référendaire qui me paraît très, très intéressante. Voilà. Mais je n'ai pas forcément répondu à votre question.
Oui, bonsoir. J'avais deux questions. La première, pour demander à Elina si on peut aller plus loin sur la méthode, enfin sur l'aspect circulaire et adaptativité. Ça serait bien si on pouvait aller plus loin. Et sur le coup, y a-t-il une ou deux mesures qui apparaissent ou qui apparaîtraient comme étant permettant de faire un pas en avant pour améliorer ? La deuxième, c'est on peut imaginer qu'il y a 150 citoyens, effectivement, ils ne sont pas tous d'accord. Mais j'ai un peu envie de demander comment faut-il procéder ? Est-ce qu'il faut les mettre en formation, si je puis dire, un peu les mettre en position d'apprendre, et puis ensuite à produire des mesures, et puis après peut-être de se questionner sur le fond de ces mesures, ce qui est légitime, ce qui est vraiment, ce qui les fonde. Hein, ou alors est-ce qu'il faut faire à l'envers, c'est-à-dire partir sur un débat plus large dans un premier temps qui peut permettre de fonder un sens, une orientation, une philosophie, voire une éthique parlant du climat, puisqu'on est sur cette expérience, et puis après qui déclinerait justement un certain nombre de mesures. Moi, ma question est, par quel bout faut-il le prendre en fait ? Et peut-être il y a peut-être déjà des enseignements à la Convention citoyenne.
Alors je réponds tout de suite et après je donnerai la parole à Hilaria. Sur la Convention citoyenne pour le climat, on a essayé de faire en quelque sorte les deux. C'est-à-dire que le moment d'information a été un préalable. C'est-à-dire que ces 150 citoyens, pour beaucoup d'entre eux, la question du climat était une question très étrangère. Et beaucoup nous ont dit, quand ils ont reçu les premiers experts qui leur ont présenté l'état de la situation, beaucoup nous ont dit qu'ils avaient reçu une claque, qu'ils avaient vraiment eu un effet de révélation à la fois sur l'ampleur du problème et sur l'urgence de la situation. Donc il y a eu une formation, mais nous avons fait en sorte aussi de permettre aux citoyens d'apporter leurs propres expériences, leurs propres systèmes de valeurs. Alors c'est un peu compliqué de faire les deux, c'est-à-dire que il y a un dispositif donc d'expertise qui vient d'en haut, et le rôle des experts qui accompagnent cette convention, il est décisif, il est à la fois crucial. Parce que des citoyens tout seuls auraient, et ça c'est une évidence absolue, ne pouvaient pas produire des mesures sous forme législative susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les dimensions techniques de ces politiques sont telles que c'est même impensable. Donc on a tout un pool d'experts qui les accompagnent et on veille néanmoins à ce que ces experts ne prennent pas le pouvoir. Et ils ne prennent pas le pouvoir. Ils sont là à la demande des citoyens. Ils sont là comme des assistants, tout comme les députés ont des experts et des dispositifs d'expertise pour les aider à faire la loi. Donc ça, c'est la première remarque. Mais il y a eu aussi cette idée, et je crois que c'est absolument... les citoyens, ils viennent avec leur savoir profane, hein, on appelle ça, nous, leur expertise profane. Ils viennent aussi avec leurs valeurs, avec leur vision du monde, et on a essayé de leur faire une place. Donc c'est cette rencontre entre l'expertise profane et l'expertise, parce que les solutions, elles existent déjà, elles ont déjà été proposées, mais c'est les citoyens qui vont les choisir, qui me paraît faire la valeur politique de cette expérience.
Alors, sur l'adaptative, l'approche adaptative et circulaire, j'entends par là vraiment un changement de posture qui se résume un peu d'une sorte de principe de subsidiarité appliqué à la relation entre gouvernant et gouverné. Je fais un exemple. L'open data est un exemple très bien réussi de circularité et de relations bidirectionnelles entre les gouvernants et le gouverné. Si je mets à disposition des données de manière ouverte et qu'en même temps je forme et je permets aux citoyens d'utiliser ces données, interagir, réagir à ces données, j'ouvre les données sur la pollution, mais je permets aux citoyens de bien savoir les interpréter, les compléter avec des données qu'ils récupèrent par ailleurs. Ça peut concerner tous les domaines de la sphère publique, d'ailleurs, de l'action publique. La question de l'open data, il y a une circularité de l'action et d'interaction entre les besoins des citoyens, parce qu'en général, on voit l'administration et le pouvoir comme quelqu'un qui répond à des besoins. J'interprète les besoins, je vous délivre un service, une politique. Or, l'approche circulaire et de la subsidiarité, il est complètement autre. C'est dire qu'on est dans le bidirectionnel, les citoyens sont porteurs de besoins, mais de solutions et de visions. Tout cela, bien évidemment, se fait à plusieurs échelles. Et c'est là, d'ailleurs, la richesse d'une approche circulaire. Vous voyez l'intérêt quand on l'applique à des grandes politiques publiques, mais aussi à toute une série de politiques à l'échelle locale. Donc la circularité, d'en avoir qu'il y a la participation, n'est pas seulement une méthode pour prendre une décision, mais c'est un horizon politique à part entière. C'est quelque chose vers laquelle tendre, et là, je la distribue, cette participation, tout au long de mes différentes chaînes décisionnelles, que ce soit par l'open data, que ce soit par le fait que je permets à des citoyens de gérer de manière collaborative des biens communs matériels et immatériels, urbains et ruraux, par exemple, dans toutes les pratiques, et aussi les théories autour des commons. La gestion partagée des commons, c'est une vraie question, c'est vraiment une vraie question de circularité du pouvoir. Et pour l'adaptativité, je dirais, c'est la capacité du politique à changer d'avis. Ce qui est important, parce que l'oratoire, comme le disait un peu Loïc, est caractérisé par un écart entre la décision légale et la décision légitime. Notre-Dame-des-Landes, on a fait un débat public, on a fait une enquête de public, on a respecté la loi, on a été légal dans la manière dont la décision a été prise. Et pourtant, la décision a été perçue comme légitime. Donc, les décisions qu'avant étaient à la fois légale et légitime, on ne remettait pas en discussion la manière de décider. Eh bien, aujourd'hui, c'est la manière, au-delà du contenu de la décision, qui est perçue comme inacceptable. Non seulement je n'adhère pas au projet que vous faites, mais par ailleurs, la manière dont il est décidé est à mes yeux inacceptable. Donc, cet écart entre le légal et l'illégitime, il est là. Et la capacité adaptative du pouvoir, c'est changer d'avis, mais c'est aussi s'adapter, faire tout le temps cet aller-retour. Quand nous avons, à la Commission nationale, participé un peu à l'élaboration de la méthode du grand débat, nous avions proposé une méthode qui finalement a été reprise pour la plupart par le gouvernement, sauf dans sa dernière partie, qui était, après les différentes réunions, etc., bon, bien évidemment, la restitution, la synthèse que l'on devait faire, mais surtout, vous organisez une grosse assemblée citoyenne avec 100 citoyens des stéréosorts. C'est-à-dire on avait préconisé, hein, c'est là dans les documents sont publics, ce qu'ils sont en train de faire. C'était aussi une manière pour boucler la boucle, parce que nous, on prévoyait un système où il y a un grand débat, des réunions d'initiatives locales, une plateforme, une réponse du gouvernement, puis allez hop, on revient aussi à la démocratie participative et on reboucle avec la démocratie représentative. Donc c'était un peu ce cercle-là aussi qu'on essayait déjà de proposer quand on avait proposé une méthode pour le grand débat.
Merci beaucoup. La démocratie participative, elle a aussi un peu des ennemis sur certains politiciens, mais aussi l'administration, dans quelque sorte. Et vous parliez de la nécessité d'avoir une procédure claire et dans la réussite des mécanismes de démocratie participative. Et il n'y a pas un risque, finalement, d'une forme de bureaucratisation. Et on a un peu l'impression qu'il y a une relation un peu binaire entre élus et citoyens, mais où se place l'administration dans la réussite de ces mécanismes? Et finalement, est-ce que, quand on voit le référendum, par exemple, de l'aéroport de Paris et la complexité de pouvoir voter, est-ce que finalement l'administration n'a pas un rôle, positif ou négatif, dans la réussite des démarches participatives? Merci.
Il y a quelqu'un qui est bien placé pour vous répondre. Laurence.
Alors, moi, je serais assez. Je trouve que derrière l'administration, en fait, se cache quelque chose qui est difficile à comprendre, ou que les démarches participatives ne mettent pas suffisamment en lumière, qui est en fait un travail de back-office absolument considérable dans les pratiques de démocratie participative. En tout cas, sur la plupart des projets. Sur la plupart des projets, en fait, il faut bien comprendre que l'ensemble de la réglementation des textes de loi, etc., L'écriture, et ça c'est un vrai sujet que va avoir à gérer la Convention citoyenne, l'écriture d'un texte de loi ou l'écriture d'une décision est un travail d'une technicité absolument colossale. Et je pense que la plupart des Français n'imaginent pas une seconde ce que ça représente en termes de travail et de complexité. Qu'est-ce qu'elle fait, l'administration, quand il y a un dispositif participatif, qui aboutit sur un texte de loi? Elle s'assure, pour pouvoir écrire un texte de loi, comment ça se passe? Vous avez un texte qui arrive à l'Assemblée nationale. Ce texte qui arrive à l'Assemblée nationale, il a fait l'objet de travail d'expertise, d'une étude d'impact. Alors, une étude d'impact, c'est-à-dire que on doit écrire des pages et des pages sur l'impact qu'a le texte de loi sur la population, en fonction des impacts financiers sur X percentile de la population, sur l'environnement, dans certains cas, selon la nature du texte en question, sur les collectivités locales, sur les finances publiques, etc. Il faut faire tout ça. Il faut faire une évaluation, ça passe en Conseil d'État pour s'assurer que le texte de loi est conforme aux principes constitutionnels dans le cadre des attributions du Conseil d'État en Conseil de gouvernement. Donc il y a en fait cette mobilisation de l'administration, elle est là, c'est vraiment le back-office du travail. Dans les dispositifs participatifs, l'administration, elle est là pour apporter son expertise, mais elle n'est pas décideur. Donc, ce que moi j'ai pu voir, c'est la très grande compétence et la mobilisation de l'administration dans son aptitude à fournir, autant que faire se peut, de l'appui à la documentation, à l'information à disposition des citoyens. Sauf que, dans bien des cas, cette mise à disposition d'informations, elle est volontairement, plus ou moins volontairement, parce que c'est compliqué, parce que l'administration est une bureaucratie, et comme toute grosse organisation, elle a du mal à savoir ce qu'elle veut. Elle n'a pas l'autorisation politique d'être aussi transparente qu'elle le voudrait. Je l'ai beaucoup vu dans le cas de Notre-Dame-des-Landes. Bon, et puis elle fait beaucoup d'erreurs, évidemment aussi, parce que l'administration, comme toute grosse organisation, elle sait être extrêmement extrêmement dure, extrêmement vindicative, et comme toutes les grosses organisations. Donc, elle est à la fois facilitante et elle est à la fois d'une très grande opacité dans ses modes de fonctionnement, dans les dispositifs participatifs. Très souvent, dans les débats publics qu'on a pu organiser, quand l'administration intervient, les grandes directions générales d'administration centrale, elles paraissent abscontes et trop complexes pour le grand public. C'est pas qu'il y a une malveillance ou de la mauvaise volonté, c'est qu'elle est d'une excessive technicité et quelque part d'une velléité de partage de pouvoir qui est pas complètement affirmée, quoi. Donc, on va le dire comme ça. Donc, elle a l'impression que ça va complexifier son travail, et c'est vrai d'ailleurs, parce que l'administration lui demande tout et son contraire, hein. J'ai vécu ça de près, hein. Donc, elle est parfois mise en difficulté dans sa capacité à s'ouvrir parce qu'on va lui demander un travail absolument colossal derrière. Et donc, elle n'est pas toujours complètement bénévolente. Ça, il faut le dire. C'est tout à fait vrai. La complexité de la réglementation française fait que le travail de l'administration en préparation est extrêmement... Enfin, je parle d'administration centrale, mais aussi de l'administration déconcentrée dans les DREAL, dans les directions régionales, par exemple, font qu'ils sont excessivement sous tension, et donc c'est particulièrement compliqué pour eux. Autre chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment très particulier de notre histoire... en matière de dispositifs participatifs et de mobilisation de l'administration sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que le sujet environnemental, qui est celui de la Convention citoyenne pour le climat, est un sujet qui est sans commune mesure je veux dire, même à l'aune des grands débats qu'on a eus sur le nucléaire, si tant est que nous en avons eu de vrais, et sans commune mesure par rapport aux enjeux de tout ce que nous avons connu. Les enjeux que nous avons auxquels nous avons à faire face en matière d'environnement et de changement climatique sont tels qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de mettre en place des dispositifs participatifs, et c'est notre dernier recours avant des mesures autoritaires d'une très grande violence. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de trouver les moyens d'inventer des dispositifs participatifs comme la Convention citoyenne pour le climat, mais je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Si nous ne sommes pas en mesure de faire sortir un certain nombre de décisions, de prendre les décisions sur les questions de changement climatique, nous aurons à faire face à des décisions liberticides dans les 20 ans qui viennent. On sera obligé, parce que ce sera trop difficile et que, en fait, nous aurons à prendre des mesures extrêmement draconiennes en matière de changement climatique. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'administration comme appui me paraît complètement indispensable, parce qu'il y a une très très grande expertise et qu'il y a une très grande expertise d'État dans le domaine du changement climatique, très forte et très vive. Et face aux enjeux, ne nous l'aurons pas, en dehors de l'expertise d'État, vous avez les lobbies. L'expertise d'État, je mets la recherche scientifique derrière, parce que voilà, les chercheurs sont payés par l'État. Derrière cette expertise-là, vous avez des lobbies. Si nous ne sommes pas capables de produire cette expertise d'État, de la faire intervenir, de prendre des décisions, en face, vous n'avez que des lobbies, et c'est eux qui retardent les prises de décision en matière de changement climatique depuis 20 ans.
Merci Laurence. On a peut-être le temps pour une question, mais j'ai vraiment dit 20h30. Dernier... Voilà, je suis désolé. Hein. Donc, peut-être la dernière question.
Bonsoir. Bonsoir. Ma question va être très courte. Y a-t-il des pays européens qui pourraient être des exemples ?
Alors, oui, effectivement, chaque pays a développé, ou en tout cas les pays qui peuvent servir de référence ont chacun développé. Moi, je trouve que la France, d'un certain point de vue, à travers la Commission nationale du débat public, a constitué une référence. Et là, avec la Convention citoyenne pour le climat, est imitée par l'Angleterre, par l'Espagne bientôt, par l'Allemagne. En fait, on est en train de faire jurisprudence. Mais les pays du Nord ne produisent pas forcément des dispositifs innovants, mais pratiquent la démocratie d'une façon qui est suffisamment participative pour servir d'exemple. L'Espagne, là, au niveau des villes, pas à l'échelle nationale, a produit des expériences, à Barcelone notamment, de plateformes citoyennes qui produisent des choses tout à fait intéressantes. L'exemple le plus proche de la Convention citoyenne, c'est l'Irlande. L'Irlande a presque institutionnalisé, parce qu'elle en a organisé plusieurs, et aujourd'hui encore, il y en a une qui vient de se lancer, des assemblées citoyennes, des conventions citoyennes, dont deux ont été suivies d'un référendum sur le mariage pour tous et sur l'avortement, référendum qui ont été adoptés. C'est-à-dire que là, on a vraiment eu une articulation entre démocratie participative et démocratie directe ou référendaire. Et donc, voilà, il y a plein d'exemples. Et pour moi, l'exemple européen sur lequel les Français ironisent d'une manière qui, moi, m'agace prodigieusement, c'est la Suisse. La Suisse est une vraie démocratie, ou en tout cas, c'est l'approximation la plus désirable de ce qu'est la démocratie. Il y a plein d'inconvénients, mais vraiment. Alors, ce qui est très étrange, c'est que même la Suisse, maintenant, quand on commence à s'inspirer. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps de la Convention citoyenne en Suisse, et ça les intéresse. C'est-à-dire qu'ils sont prêts aussi à expérimenter ce type de dispositif. Je suis vraiment merci hein, pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à Sébastien de nous avoir accueillis ici. Merci à tout le monde.
Merci en tout cas encore à vous trois, à Laurence Monnoyer-Smith, Ilaria Calisilo et Loïc Blondiot pour l'animation de la rencontre. C'est tout à fait passionnant. Je remercie bien sûr aussi nos collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur notre web TV, et ce qui fait que vous pourrez aussi la revoir d'ici quelques semaines en replay, à la fois sur le site internet de la Bibliothèque publique d'information ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à prendre à la sortie, il y a encore quelques bibliographies sélectives sur la démocratie participatives qui ont été faites par les collègues de la bibliothèque. Très bonne soirée.